Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Cette édition sera essentiellement consacrée à l'Afghanistan. Le président américain Joe Biden a défendu hier fermement le retrait américain d'Afghanistan, malgré la prise de contrôle des talibans et les scènes de détresse à l'aéroport de Kaboul, où des milliers de personnes tentaient de fuir le pays. Cible de vives critiques aux États-Unis comme à l'étranger, M. Biden a expliqué « Notre mission en Afghanistan n'a jamais été censée construire une nation ». Jean-Roger Bion nous donnera les détails. Le trafic a repris à l'aéroport de Kaboul, a annoncé lundi le Pentagone. Après avoir tiré en l'air dimanche, les forces américaines ont ouvert le feu lundi, tuant deux hommes qui ont brandi leurs armes d'un air menaçant, selon un responsable du Pentagone. La situation à l'aéroport, dont les pistes ont été envahies par des milliers de personnes tentant désespérément de fuir l'Afghanistan, avait empiré au point que tous les vols avaient dû être suspendus plusieurs heures lundi après-midi. Michel Joseph nous décrira cette scène. Ce sera dans quelques instants, dans une page spéciale sur l'Afghanistan, incluant particulièrement des réactions dans un Sahel sous la menace des djihadistes. Justement, à ce propos, des centaines de civils ont quitté leur village dans le nord du Mali sur ordre des djihadistes ou par peur, une semaine après des attaques qui ont fait 42 morts selon un bilan définitif des autorités. Au Burkina Faso, au moins 13 djihadistes ont été tués, une base logistique détruite lors de deux ripostes à des attaques terroristes dans le nord et l'est du pays, a annoncé hier l'armée burkinabée. Burkina toujours, une vingtaine d'organisations ont appelé hier à la libération immédiate de Pascal Zaïda, une figure de la société civile arrêtée à Ouagadougou pour, je cite, « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion ». L'opération de vaccination des agents du secteur de la santé contre le virus Ebola a débuté ce lundi en Côte d'Ivoire, où un cas a été détecté il y a quelques jours à Abidjan. Le premier depuis près de 30 ans, ont constaté des journalistes de l'AFP. Trois personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres, dont 15 élèves, enlevées dans un collège agricole de l'État de Zamfara par des hommes armés, dernière en date d'une série d'attaques de ce genre depuis plusieurs mois au Nigeria. Trois ressortissants chinois sont portés disparus depuis dimanche dans une zone minière d'Ituri, province aurifère troublée du nord-est de la République démocratique du Congo, où ils auraient été enlevés par un groupe armé, a-t-on appris hier de sources militaires. En Zambie, le président sortant Edgar Lungu a promis une transition pacifique du pouvoir en félicitant l'opposant de toujours, Hakainde Hichilema, qui a été très largement élu avec près d'un million de voix d'avance et une forte participation. La mobilisation a continué ce lundi au Maroc pour maîtriser les incendies qui ont déjà décimé plus de 700 hectares de forêt en trois jours, tandis que les derniers foyers encore actifs en Algérie voisine paraissaient en voie d'extinction selon les autorités des deux pays. Deux jours après, le puissant séisme qui a frappé Haïti, faisant plus de 1400 morts, les secours s'activaient lundi à la recherche des personnes disparues ou bloquées sous les ruines à l'approche d'une tempête qui menaçait d'aggraver encore la situation. En plein naufrage économique, le Liban a observé lundi un deuil national après la mort de 28 personnes brûlées vives dans l'explosion d'une citerne d'essence alors qu'elles cherchaient à se procurer désespérément du carburant dans la nuit de samedi à dimanche. Bob Dylan est poursuivi devant un tribunal de New York par une femme qui affirme que le légendaire chanteur l'a agressé sexuellement il y a près de 60 ans quand elle était âgée de 12 ans. On ne connaît que les initiales de la personne, JC. Ce sont les seules initiales mentionnées dans la plainte. La suite de nos informations et nous commençons par une page spéciale sur l'Afghanistan. Cible de vives critiques après la chute de Kaboul, le président Joe Biden a défendu fermement hier sa décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan. Il a fait savoir que la mission de Washington n'avait jamais été de bâtir une nation démocratique dans le pays instable, retombé aux mains des talibans. Jean-Roger Bion.
Après 20 ans, j'ai appris à contre-cœur qu'il n'y avait jamais de bon moment pour retirer les forces américaines, a affirmé le président américain lors d'une adresse à la nation prononcée à la Maison-Blanche et très attendue en raison de son mutisme durant ce week-end historique. La vérité est que tout cela s'est déroulé plus rapidement que nous l'avions prévu, a-t-il toutefois concédé après avoir dû interrompre ses congés face à l'ampleur de la polémique. Notre mission en Afghanistan n'a jamais été censée construire une nation, elle n'a jamais été censée construire une démocratie unifiée centralisée, a dit le président démocrate en précisant que l'objectif unique reste aujourd'hui et a toujours été d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain. Face au chaos régnant, le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs menacé lundi les talibans de représailles si ces derniers venaient à perturber les opérations d'évacuation en cours à l'aéroport de Kaboul. En cas d'attaque, la réponse sera rapide et puissante, a-t-il déclaré, promettant de défendre les ressortissants américains avec un usage dévastateur de la force si nécessaire. Les États-Unis continueront de s'engager pour les femmes et les jeunes filles d'Afghanistan, a également promis Joe Biden, qualifiant les scènes en Afghanistan de déchirantes.
Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan a suscité de nombreuses réactions et même des critiques des alliés les plus proches des États-Unis. Le point avec Rosine Munezero.
Fait rare, vu les relations privilégiées entre Londres et Washington, le gouvernement de Boris Johnson a ouvertement critiqué le retrait américain. C'est un échec de la communauté internationale qui n'a pas compris qu'on ne règle pas les choses du jour au lendemain, a lancé Ben Wallace, ministre britannique de la Défense. En Allemagne, deuxième contributeur de troupes en Afghanistan avec environ 150 000 hommes, le mécontentement est palpable. Al-Qaïda ne peut plus mener d'attaque contre les États-Unis depuis le sol afghan. Mais tout ce qui a suivi n'a pas été aussi fructueux que nous l'avions prévu, a déploré Angela Merkel. Elle doit quitter le pouvoir après les législatives du 26 septembre. Armin Laschet, candidat à la succession à la chancellerie, a parlé de la plus grande débâcle que l'OTAN ait jamais connue depuis sa création. La Russie, ex-Union soviétique qui a subi en 1989 une humiliation des moudjahidines afghans, se moque de la défaite de son grand rival. L'ambassadeur russe doit être reçu par les talibans aujourd'hui à Kaboul. En Iran, le tout nouveau président Ibrahim Raisi estime que la défaite des États-Unis doit se transformer en une opportunité de paix durable chez le voisin avec lequel l'Iran partage 900 km de frontières. Enfin, le Qatar qui a félicité les négociations inter-afghanes à Doha appelle les talibans à décréter un cessez-le-feu et faire baisser la tension.
En Afghanistan même, des milliers de personnes tentent désespérément de fuir le pays depuis l'aéroport de Kaboul suite à l'effondrement des forces gouvernementales et au retour des talibans au pouvoir. Le point avec Michel Joseph.
Une marée humaine s'est précipitée vers l'aéroport de Kaboul qui semble être la seule porte de sortie de l'Afghanistan pour tenter d'échapper au retour des talibans. Les pistes ont été envahies par des milliers de civils et militaires avec comme conséquence hier, tous les vols ont été suspendus. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes courant près d'un avion militaire américain qui roule pour se mettre en position de décollage. Des centaines d'autres tentaient follement de s'accrocher aux ailes ou aux roues de l'appareil pendant que des milliers de personnes occupaient le tarmac et des grappes de jeunes s'accrochant aux passerelles pour tenter de monter dans un avion. La débâcle a été ressentie jusqu'en Ouzbékistan, qui dit avoir fait atterrir de force 22 avions et 24 hélicoptères qui avaient traversé la frontière avec 585 soldats à leur bord. Ils ont été contraints de se poser à l'aéroport de Termez dans le sud. L'ex-président Ashraf Ghani a fui son pays. Le gouvernement afghan s'est effondré car il manquait de leadership, a déclaré hier John Kirby, porte-parole du Pentagone. Selon lui, on peut financer, former et conseiller, mais on ne peut pas acheter la force de caractère, le leadership et ce leadership manqué.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. La prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan après 20 ans de présence militaire américaine est suivie de près dans le Sahel, où des groupes djihadistes essaient depuis 2013 d'imposer la loi islamique par les armes. Moussa Tchangari, activiste nigérien et président de l'association Alternative Espace Citoyen, tire déjà la sonnette d'alarme à travers une tribune publiée ce lundi. Abdulrahman Dia a joint à Niamey Moussa Tchangari.
Tant que, en fait, on voit seulement la question sous l'angle purement militaire, et on refuse de faire les changements qu'il faut sur le plan de la gouvernance pour créer des rapports nouveaux entre les citoyens et les États. C'est clair que ces groupes-là pourraient menacer et beaucoup plus et pourraient un jour déferler sur des capitales. Et donc, au Sahel, on doit s'inquiéter également.
Est-ce que cette offensive des talibans qui a abouti à leur prise du pouvoir pourrait inspirer les groupes djihadistes dans le Sahel?
Oui, absolument, absolument. Je pense que ces mouvements sont d'une manière ou d'une autre connectés entre eux. Et donc, si les Afghans arrivent à gagner les talibans en Afghanistan, gagnent au bout de 20 ans de guerre, il n'y a pas des raisons ici que les autres ne s'inspirent pas de ces cas en se disant que il faut persister, il faut persévérer et peut-être qu'ils parviendront à gagner. Donc l'exemple des talibans en Afghanistan va probablement inspirer les groupes qui sont actuellement très actifs. Donc ça c'est sûr que ça va les inspirer.
Est-ce que le départ des troupes américaines dans ces conditions relance un peu le débat sur la présence des troupes étrangères au Sahel?
Ça lance le débat et ça va relancer en fait ce débat qui était déjà là. Je pense que les forces étrangères sont vivement contestées, leur présence en tout cas ici, au Sahel. Elles ont été décriées parce que ces forces-là sont là, on ne voit pas de résultats, en tout cas d'amélioration significative. Les groupes armés sont toujours là, continuent à apporter des coups durs aux armées nationales, perpètrent des exactions contre les populations. Il y a dans certains pays des zones entières qui ne sont pas sous les contrôles des forces nationales ou internationales. Maintenant, avec ce qui arrive en Afghanistan, bien entendu, tout le monde va se dire en fait, ça ne sert à rien d'avoir des forces étrangères qui représentent une sorte de, dont la présence représente une sorte de menace pour la souveraineté des pays sans qu'il y ait de moindres résultats. Et donc, oui, ça va relancer ce débat et je pense que au sein même des pays qui ont envoyé des contingents au Sahel, le débat va se poser. Voilà.
C'était Moussa Tchangari, joint à Niamey.
Abdulrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le retour triomphal des talibans à Kaboul 20 ans après d'en avoir été chassés par l'armée américaine. La prise de la capitale afghane avant même la fin du retrait américain a surpris Washington et ses alliés occidentaux. L'administration de Joe Biden, sous le feu des critiques, défend sa décision de retirer les troupes américaines suite à un accord à Doha entre les talibans et les États-Unis sous Donald Trump. Quelles sont les conséquences du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour la région et les États-Unis? Nous allons débattre de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA.
Les Maliens qui vivent avec la menace djihadiste dans leur pays depuis des années sont préoccupés par la victoire des talibans en Afghanistan. Entre incompréhension et peur de voir le même scénario se produire chez eux, ils s'expriment au micro de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Bon, moi, je pense que ce retour n'est pas une très bonne chose dans la mesure où il était en train d'être chassé par non seulement les Américains, les Russes et toutes les forces occidentales. Et aujourd'hui, si on nous dit que les talibans ont eu la victoire sur les Afghans, vraiment, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et je ne comprends pas du tout le retrait des forces occidentales, surtout des forces américaines, pour laisser place libre à ces talibans. Je ne comprends vraiment pas.
Par rapport au retour des talibans en Afghanistan, cela dénote peut-être un échec de la communauté internationale dirigée par les États-Unis, de mon point de vue, parce que depuis 20 ans, les États-Unis ont essayé peut-être de former l'armée afghane, peut-être sans les mettre dans les conditions idoines, parce que ni sur le plan aérien, ni sur le plan logistique, cette armée n'a pas pu être mise aux pointes par cette coalition internationale. Et dès que les États-Unis ont annoncé leur retrait, facilement, les talibans ont récupéré le pays. Donc ce n'est qu'un échec de la communauté internationale, de mon avis personnel.
D'abord, ce qu'il faut quand même constater de ce retour des talibans après le départ des forces américaines, c'est que pendant 20 ans, l'armée américaine était sur place, mais on voit qu'ils n'ont pas assuré la postérité. Quand on vient pour aider un pays militairement, il ne suffit pas de déplacer le problème, parce qu'on a vu que juste après leur départ, pendant 20 ans, ils étaient sur place et le pays tombe entre les mains des talibans. Donc je crois qu'ils ont fait le travail à moitié. Il fallait assurer une certaine formation, un certain nombre d'équipements avant de faire le départ.
Les États-Unis évacuent donc le personnel de leur ambassade à Kaboul pendant que l'administration Biden défend son retrait d'Afghanistan. Mais les critiques disent que le départ des Américains pourrait créer une crise humanitaire et un refuge pour les extrémistes. Reportage de Michel Quinn, récit de Yacouba Ouedraogo.
L'administration Biden défend sa décision de quitter l'Afghanistan après 20 ans de lutte contre les islamistes, mais ne s'attendait pas à ce que les talibans avancent aussi vite qu'ils l'ont fait. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Le président a décidé qu'il est temps pour les États-Unis de mettre fin à cette guerre, de sortir d'une guerre civile en Afghanistan et de s'assurer que nous conservons nos intérêts dans le monde entier et que nous créons les conditions pour faire avancer ces intérêts. C'est ce que nous faisons.
Certains législateurs républicains ne critiquent pas seulement l'administration Biden. Ils blâment aussi l'administration de l'ancien président Donald Trump pour sa décision de se retirer complètement d'Afghanistan d'ici mai 2021. Le président Joe Biden a ramené cette date au mois d'août. Les critiques affirment que la gestion du retrait par l'administration actuelle est une tache noire pour les États-Unis sur la scène internationale. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a publié dimanche une déclaration disant que les terroristes et les adversaires observent l'embarras d'une superpuissance mise à terre. Liz Cheney est une députée républicaine.
Cela va avoir des ramifications, pas seulement pour l'Afghanistan, pas seulement pour nous en Afghanistan, pas seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais globalement pour le rôle de l'Amérique dans le monde. Les adversaires de l'Amérique savent qu'ils peuvent nous menacer et nos alliés se demandent s'ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit.
Le secrétaire d'État Blinken a déclaré que la crainte est évidente que les talibans qui ont dirigé le pays à partir de 1996 avec un gouvernement fondamentaliste islamiste jusqu'à son éviction en 2001, n'impose à nouveau des règles strictes pour les femmes et les autres. Mais c'est à la communauté internationale d'aider le peuple afghan, dit-il, et aussi dans l'intérêt des talibans de poursuivre avec un gouvernement qui défend les droits fondamentaux.
S'ils ne le font pas et s'ils sont en position de pouvoir et qu'ils ne le font pas, alors je pense que l'Afghanistan deviendra un État paria.
7 Américains sur 10 ont soutenu la décision de retrait de Biden, selon un sondage du Chicago Council of Global Affairs en juillet. Il reste à savoir si les scènes d'une prise de contrôle rapide de la capitale par les talibans vont changer le soutien américain au plan du président.
Voilà pour notre page spéciale sur l'Afghanistan.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À présent, la Minute Éco, John Linden.
Le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal à travers le Fonds PME Agri va investir dans Rasulna. L'accord d'un montant de 200 millions de francs CFA a été signé vendredi à Saint-Louis. Selon Financial Afrique, cet investissement devrait permettre à Rasulna d'étendre ses activités en renforçant son parc de machines agricoles et en élargissant son offre de services aux entreprises agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. La Banque centrale du Ghana a annoncé avoir signé un accord avec une entreprise allemande pour mettre en œuvre son projet pilote de monnaie numérique dénommé ICEDI. Dans un communiqué, l'Institut d'émission indique que la société basée à Munich fournira toute la technologie pour mettre en place le digital CEDI. Le Ghana souligne que cette monnaie virtuelle devrait être testée avec des banques et des prestataires de services de paiement. Le géant américain du web Facebook a indiqué qu'il va s'allier avec certains des plus grands opérateurs de télécommunications dont China Mobile, MTN, Vodafone et Orange pour son projet d'étendre son réseau de câbles sous-marins en Afrique. Dans un communiqué publié lundi, la société a informé que le câble aura une longueur de 37 000 km et reliera l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Baptisé Tout Africa, annoncé en mai 2020, ce projet devrait entrer en service d'ici 2024.
Merci John. Les sports maintenant avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaîtra aujourd'hui les différentes poules de la prochaine CAN prévue au Cameroun. Du 9 janvier au 6 février 2022, le tirage au sort de la compétition a lieu ce mardi à Yaoundé. L'Algérie, tenante du titre amené par Riyad Mahrez, sera le gros poisson à éviter. Le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie sont également prétendants au titre en tant que tête de série aux côtés du Maroc et du Nigeria. Un statut que n'ont pas l'Égypte, cette fois championne, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali, principaux outsiders de cette CAN. 6 poules de 4 équipes seront constituées pour cette deuxième CAN à 24 équipes. Les premiers, les deuxièmes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de chaque groupe accéderont au huitième de finale. En Europe, les chiffres sont sans appel. Le Barça a une dette d'1,35 milliard d'euros, une masse salariale de 617 millions d'euros, de 25 à 30% supérieure à celle de ses concurrents. Et son patrimoine net est dans le rouge de 451 millions d'euros, a annoncé Juan Laporta, président du FC Barcelone. Le dirigeant Blaugrana a dévoilé les nouveaux chiffres vertigineux de la crise économique qui frappe le club catalan. Une situation dramatique qui a ouvert la porte au départ de Lionel Messi. Nous avons pris des mesures pour résister un an et demi. J'espère que d'ici environ deux ans, l'économie du club sera saine, a-t-il dit. Concernant le départ de Messi, Laporta a assuré avoir fait tout son possible dans la limite des possibilités économiques du club. Il a confié que la présentation de l'Argentin à Paris lui a laissé un sentiment contradictoire. Athlétisme, les championnats du monde des moins de 20 ans débuteront demain mercredi à Nairobi au Kenya au lieu de ce mardi. La cause, les restrictions sanitaires liées à la pandémie qui impactent les déplacements des athlètes, a annoncé la Fédération internationale d'athlétisme. Ces mondiaux sont prévus se terminer le 22 août. La Fédération internationale a également précisé que le programme initial pourrait être respecté avec 5 jours de compétition au lieu de 6. Comme les Jeux olympiques de Tokyo, les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront dans un huis clos quasi total, annonce le comité organisateur à 8 jours de la cérémonie d'ouverture. Cette mesure pour les Jeux paralympiques qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre est similaire à celle adoptée pour les JO clôturés le 8 août, pour lesquels près de 98% des épreuves se sont tenues à huis clos. Des élèves d'écoles locales pourront cependant assister à certaines épreuves à la demande des autorités locales ou des écoles, précise le communiqué. Les quelques 4 400 sportifs attendus à Tokyo pour les Jeux paralympiques devront se soumettre, comme ceux ayant participé aux JO, à des tests quotidiens au COVID-19 et des restrictions de mouvement.
Merci, Yacoub.
C'est Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.